Nous allons ouvrir nos Bibles au Hébreux chapitre 11 et nous allons continuer à étudier et à apprendre de ce texte qui est ces exemples de foi de personnes de l'Ancien Testament. C'est cette idée de comment est-ce qu'on vit avec la foi, comment est-ce qu'on vit avec confiance en Dieu. Dans notre contexte ici, dans les Écritures, probablement ce sont des chrétiens qui subissaient des persécutions. On prenait leur bien, on prenait peut-être leur argent, on fermait peut-être leur compte en banque, et il y avait une persécution au niveau matériel que l'Église subissait. Et il y avait aussi à ce moment-là donc des chrétiens qui pensaient que peut-être la meilleure chose serait de renoncer au christianisme, peut-être aller au judaïsme, autre religion, parce que on souffrait tellement à cause de ces différentes choses. Ce n'est pas du tout notre cas, mais de vivre avec foi, de vivre avec confiance n'est pas toujours évident. Comme vous savez, je passe par un moment de chômage. Ça, il y a des difficultés qui sont là. Et si vous me prêtez l'oreille, alors volontiers je vais me plaindre sans demander deux fois de ce qui me passe. Mais en même temps, je dois continuer à me rappeler du sermon sur la montagne, par exemple, où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas demain. Okay? Chaque jour suffit sa peine. Que Dieu prend soin des oiseaux, que Dieu prend soin des fleurs, et donc il prendra aussi soin de moi. » Et de ça, chacun de nous. Et c'est ça, vivre avec confiance. C'est ça, cette foi. C'est la foi qui dit que malgré les circonstances, malgré les difficultés qui sont là, que Dieu est présent et qu'il prépare un avenir pour chacun de nous. Donc, nous allons lire aux Hébreux, chapitre 11, les versets 28 à 30. Et nous lisons ceci en disant que nous ne sommes pas des gens qui sommes arrivés totalement à la foi que nous voulons. Mais nous nous souvenons que Jésus a dit, si nous avons la foi d'un grain de moutarde, alors on peut aller en avant. On peut bouger les montagnes. Hébreux chapitre 11, versets 28 à 30. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils, c'est-à-dire les enfants d'Israël, traversent la mer Rouge, comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Bon, il y a ici quelques exemples, donc ils sont trois exemples, qui parlent de la foi, d'abord de Moïse, après d'Israël, et puis finalement d'Israël une fois entré dans le pays de Canaan. Et nous voyons ici, c'est la première Pâque où on avait égorgé l'agneau et on avait mis le sang au-dessus des portes pour que l'ange destructeur ne détruit pas le peuple de Dieu. Et le but de cela, c'était, vous vous souvenez, c'était de libérer les Israélites. Il libérait le peuple. Et on trouve toute la préparation pour la Pâque et pour cet événement au Exode chapitre 12. Vous vous souvenez qu'il y avait un agneau, son défaut d'ânon, qui était partagé par toute une famille. Et cette première Pâque, ils ont mangé debout avec du pain sans levain pour montrer qu'ils étaient précipités. Le pain n'a pas pu donc pétrir. Qu'ils étaient aussi un pain de souffrance et aussi un pain de précipitation. Et le peuple devait partir rapidement. Et le sang de l'agneau sur les linteaux, tout autour de la porte, était un rappel que le premier-né de la maison était sauvé parce qu'un agneau a donné sa vie. C'était pour protéger l'entrée à la maison de cet ange destructeur. Bon, où est la foi d'Israël dans cette dixième plaie? Bon, ils ont dû d'abord suivre toutes les consignes. Et quand vous lisez Exode chapitre 12, vous allez voir, il y avait pas mal de consignes à suivre. Et c'était seulement à cela, à travers ces consignes, que le peuple a été épargné. Ils ont dû croire que Dieu allait faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire frapper le pays de l'Égypte et les libérer. Et nous nous souvenons que Dieu avait déjà envoyé 9 plaies. L'eau qui change en sang, les mouches, les sauterelles, les ulcères, la grêle. Vous vous souvenez de la nuit épaisse, hein, on voyait rien de tout. Donc, toutes ces différentes choses étaient là. Mais le peuple, quand même, a dû croire que cette nuit, Dieu allait les libérer. Et c'est pour cela qu'ils ont mangé debout. L'idée, c'est que le moment que la libération, l'annonce de la libération est là, que tout le monde met les valises, les sacs sont prêts, la nourriture est mangée et il fallait aller en avant. Et ils ont dû croire aussi que Dieu les protégeait simplement avec le sang de l'agneau. C'est seulement à travers le sang de l'agneau que Dieu allait les protéger. Et nous pouvons imaginer, comme dans les films, quand les premiers d'Égypte meurent, on entend les cris, on entend les pleurs, on entend ces gens qui pleurent la mort de leur premier-né. Et une maman ou un papa doit se poser la question, mais est-ce que mon enfant sera épargné? Et la réponse est oui, grâce à l'agneau. Donc, ils ont dû vivre avec cette foi. Ils avaient une histoire avec Dieu. Ça, c'est sûr. Ils avaient une histoire de 9 plaies. Ils avaient vu Dieu en action. Ils avaient vu la puissance de Dieu. Et donc, à cause de cela, ils étaient disposés maintenant, à ce moment-ci, d'obéir. Parce que soit ils obéissent, soit ils vont subir les conséquences comme ils ont déjà vu. Et vous savez que ce que dans le Nouveau Testament, quand on regarde cette fête de Pâques et quand nous voyons ces différentes choses, ça saute aux yeux, hein? Jésus qui est notre Pâques, Jésus qui est l'agneau. Nous pensons d'abord au fait que l'agneau devait être innocent et sans tache. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que Jésus est un sacrifice innocent et sans tâche. Que Jésus, au moment d'être tué, quand on lit l'évangile selon Jean, il est tué au moment sur la croix que les agneaux sont tués au temple. Ça arrive au même moment. Que Jésus n'a pas ouvert la bouche pour se protéger, selon l'apôtre Pierre. Et puis, vous vous souvenez, à un moment donné, Jésus suspendu sur la croix, il y a Jésus qui dit « j'ai soif ». Et quelqu'un va prendre une branche d'hysope, c'est-à-dire c'est une branche d'une plante, et va mettre une éponge avec du vinaigre dessus pour donner à Jésus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la Pâque, pour la première Pâque, on était obligé de prendre une branche d'hysope, prendre les feuilles dans le sang de l'agneau, et avec cela, mettre tout autour de la porte le sang de l'agneau. Et donc, on a cette image de la personne qui court à Jésus pour lui donner quelque chose à boire, qui a mis du rouge, donc vinaigre, sur une éponge au bout d'une branche d'hysope. Et là, l'image est claire, l'image de ce sang qui est répandu. On lit dans les Écritures qu'aucun des os de Jésus n'a été brisé. Et nous lisons la Pâque, qu'on n'avait pas le droit de briser les os des agneaux qui étaient offerts. Jésus délivre les gens de leur esclavage, comme Dieu a délivré le peuple de leur esclavage. Et Jésus nous mène vers un pays qui sera notre gloire. Et c'est la même chose avec la Pâque de l'Ancien Testament. Donc vous voyez tous ces parallèles, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et donc, nous devons avoir cette même foi, d'obéissance et de confiance que Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver en Christ Jésus. Et cela nous mène à l'obéissance. Deuxième chose, il parle de la traversée de la mer. Okay? Alors, n'aimez-vous pas dans le film Les 10 commandements? Okay? Il y a Charlton Heston qui est Moïse. Il traverse la mer. Autrefois, on pouvait aller à Universal Studios. Oh, et puis on pouvait traverser les mers d'autrefois et on voyait comment ils ont fait ces techniques au niveau de photographie et de filmage. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé? La nuit est là qu'ils ont dépouillé les Égyptiens quand ils sont partis, okay? Et ils se sont mis en route pour Sinaï. mais il trouve un chemin qui n'est pas le meilleur chemin. Il se trouve coincé contre ce maire qui s'appelle le maire des champs dans l'Ancien Testament. I-J-O-N-C-S, ok? Donc, ils sont là. Et donc, au niveau stratégique, c'est pas vraiment super. C'est un peu Dunkirk, ok? C'est l'idée que les armées peuvent être autour et puis il n'y a pas de manière de s'échapper. Et Pharaon change d'avis, donc il décide de poursuivre les Israélites et il va envoyer ses armées et ses chars. Et Dieu a protégé le peuple d'abord en envoyant un feu qui a séparé les armées de l'Égypte des Israélites. Et puis aussi une nuée qui a pu faire la même chose. Il a fait souffler le vent sur la mer pour séparer les eaux. Et donc, le peuple de Dieu a traversé la mer à pied sec. Et les Égyptiens, donc, ont essayé après de les poursuivre parce que le feu s'est enlevé. Les Égyptiens ont essayé de les poursuivre et les eaux sont tombées sur les Égyptiens et la totalité de l'armée de l'Égypte, donc, a été détruite. Dieu a délivré le peuple d'Israël. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire au niveau de cette foi du peuple. Mais je veux souligner les points suivants. D'abord, la foi ici n'est pas la foi dans ses propres capacités de faire quelque chose de grandiose. La foi, c'est simplement une foi placée, une confiance placée en Dieu qui donnera une récompense à ceux qui le suivent. Ils mettent leur confiance en lui et ils vont prendre simplement un pas. Et en faisant cela, Dieu va être à l'œuvre. Ce n'est pas la conviction que nous devons essayer de grandes choses, faire de grandes choses, et Dieu va les bénir. Ce que Israël fait dans ce texte n'est pas une grande chose. C'est simplement obéir à Dieu. Dieu fait la grande chose. Le peuple de Dieu est simplement obéissant. Et remarquez les actions des Israélites. Okay? Notons, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur la sable, ok? Le vent arrive et eux, ils commencent à marcher à travers les eaux vers l'autre rive. Okay? Ça, c'est leur foi. C'est ça qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Exactement la même chose. Sauf que bon, c'est le même sable, c'est la même terre, c'est les mêmes eaux. Eux, ils ont fait la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux sont retombées sur eux. Okay? Donc, c'était pas le courage qui leur a donné la victoire. C'était leur confiance en Dieu. Vous voyez, les Égyptiens étaient aussi courageux que les Israélites. Mais la fin est différente. Ce que nous demandons, Dieu demande, c'est simplement d'avoir confiance en lui et de continuer à obéir. Moi, j'aime bien les gens de courage. J'aime bien les histoires des chrétiens qui ont fait d'énormes choses. J'aime bien cela. Mais ce n'est pas tout à fait notre histoire. Notre histoire, c'est d'avoir confiance en Dieu dans les petites choses qu'il nous demande de faire. C'est non seulement d'avoir courage, mais c'est d'avoir la force de vivre notre vie quotidiennement dans la lumière de l'Évangile et d'obéir à notre Dieu. C'est de traverser les eaux que Dieu a séparées. C'est pas à nous de faire cela. Donc, vous voyez les deux choses. Première chose, c'est cette idée d'obéir à ce que Dieu a donné parce qu'il y a l'agneau qui est donné pour nous sauver et la confiance que Dieu nous sauve à travers l'agneau. La deuxième chose, c'est cette idée de juste prendre le pas que Jésus nous demande de prendre et d'aller en avant avec lui, d'avoir confiance en lui et permettre à Dieu ou à Jésus de préparer ce chemin pour nous. Bon, c'est ce qui est bien, c'est quand on écrit une lettre, on n'est pas obligé de suivre une année après l'autre parce que maintenant, on passe 40 ans. Ok, il y a plein de choses qui sont passées entre deux, mais on va parler la chute des murailles de Jéricho. Donc c'est 40 ans plus tard dans l'histoire, le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain et de nouveau c'est un traversée d'une rivière, mais c'était en inondation à ce moment-là. Et donc ils vont traverser dans le printemps et puis ils se trouvent devant une ville protégée qui est la ville de Jéricho. Et c'est assez fascinant d'étudier l'histoire de Jéricho, parce que quand vous étudiez l'archéologie de Jéricho, vous trouvez pas l'histoire exactement comme nous avons dans Josué chapitre 1, 2, 3, 4. Okay? On ne le trouve pas. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Je crois que la raison la plus fiable, c'est que Jéricho, comme un endroit, a changé de lieu plusieurs fois. On sait que le Jéricho qui est maintenant le Jéricho est un Jéricho qui a été abandonné probablement pendant cette époque-ci. Mais ne vous en faites pas, cette histoire est véridique, c'est quelque chose qui a lieu, et donc il se trouve devant cette ville qui est fortifiée. Et puis l'idée que nous avons souvent, c'est que c'est Israël qui arrive, petit Israël qui arrive, devant la grande ville Jéricho, qui est puissante et qui pourrait les écraser seulement comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas l'histoire. Première chose qu'il faut savoir, qu'Israël a déjà fait plusieurs batailles à l'est du Jourdain. Et Dieu leur avait donné la victoire. Basan, Og, etc. Ce sont des rois de Sion, etc. Ce sont des rois qui ont été battus. Donc, ils étaient expérimentés déjà dans la guerre. Ils savaient ce que c'était. Et puis la Bible dit qu'ils étaient un peuple nombreux. Un peuple nombreux. Et donc, on parle de plusieurs milliers de personnes et de plusieurs milliers de guerriers. Okay? Donc, j'aimerais juste vous aider à comprendre ici que l'histoire ici qui est donnée n'est pas un type de David contre Goliath. Ce n'est pas ça. Israël a les armées pour écraser, pour gagner, pour tout faire. Ils ont ces armées. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'ils mettent leur confiance en lui plutôt que dans leurs propres armées, dans leurs propres capacités, etc. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Et donc, il va leur demander de faire quoi? De marcher une fois, tous les jours, tôt le matin, autour de la ville de Jéricho. Donc, premier jour, une fois, deuxième jour, une fois, troisième jour, une fois. Ils vont suivre les prêtres, ils vont suivre l'Arche de l'Alliance, et puis le septième jour, ils vont faire sept tours de la ville. Et une fois que cela s'est terminé, les trompettes allaient sonner, le peuple allait crier pour Dieu et pour Josué, et les murailles ont tremblé, les murailles sont tombées vers l'intérieur de la ville pour tuer les gens dedans, et puis avec tout cela, les armées allaient entrer, le peuple allait entrer et prendre la ville. Juste pour vous dire, en 2007, à la colonie Harmonie, on a eu le thème les murailles de Jéricho. Et donc, quelqu'un a eu l'idée, je trouvais c'était une folie, mais c'était une idée, que tous les jours, on allait faire pendant 6 jours un tour du centre, okay? C'est-à-dire le centre de colonie. Et donc, on a fait le premier jour un tour, deuxième jour. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens dans le centre qui étaient des gens de Jéricho. Et ces gens se moquaient de ces Israélites qui tournaient autour, etc. Le septième jour, sans blague, tout le monde a fait 7 tours du centre et on s'est arrêté devant des murailles qui étaient des murailles avec en carton, qu'ils avaient fait des cartons. Et puis, tout le monde a crié pour Dieu et pour Jéricho et devinez, les murailles sont tombées et malheureusement, on n'a pas averti aux enfants de ne pas essayer de tuer les gens qui étaient à l'intérieur de la ville parce qu'eux, ils étaient tellement fâchés qu'on se moquait d'eux pendant 7 jours qu'ils auraient versé du sang. Okay? Mais c'était très intéressant parce que le septième jour, quand on tournait autour 7 jours, je sais que vous pouvez pas imaginer, mais il y a des ados qui commençaient à se plaindre. Pourquoi on fait cela? Pourquoi on fait cela? On peut se poser la question, est-ce qu'Israël a fait la même chose? Je suis pas très sûr. Mais ce que j'aimerais, bien que vous voyez, que dans l'histoire de Jéricho, il y a une expression de foi. C'est une expression de foi. Dieu a dit de le faire dans le silence pendant 6 jours, on va le faire. Dieu a dit 7 fois le septième jour, on va le faire. Et attention, il n'y avait pas des ingénieurs comme Bollé qui ont dit, oui, si on le fait, on va affaiblir les fondements de... Non, c'était pas ça. C'était une obéissance pure à ce que Dieu leur a demandé de faire. Et donc, parce qu'ils ont fait cela, Dieu leur a donné un signe. Et quand les murailles de Jérusalem sont tombées, c'était un signe. Et vous savez quel signe c'était? C'était un signe que je vais vous donner ce pays que je vous ai promis, j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est moi qui vais vous le donner. C'est pas vous qui allez le prendre par votre propre pouvoir, par votre propre force. C'est moi qui vais le faire pour eux. Et évidemment, il y a le but de que le peuple apprenne l'obéissance. Bon, trois histoires. La Pâque, traversée de la mer, et puis la chute de murailles de Jéricho. Alors, pourquoi ces histoires? Bon, je crois d'abord que l'auteur aux Hébreux, ici ces chrétiens, voulaient encourager les chrétiens douteux à continuer dans leur foi et de persévérer. Et comment faire cela? Bon, d'abord, il parle de la Pâque. Et la Pâque, ça veut dire délivrance. C'est Dieu qui passe par-dessus pour sauver son peuple et de le délivrer. Et chaque chrétien, quand il entend l'histoire de Pâques, il pense au pardon de ses péchés. Il pense au sacrifice de Christ. Il pense à ce que Dieu a fait. Et vous savez, si nous voulons avancer, nous devons tourner vers la croix et comprendre que Dieu a fait une fois pour toutes tout ce qui est nécessaire pour nous pardonner. Comme les premiers-nés étaient rachetés par l'agneau, nous aussi, nous sommes rachetés à vivre éternellement avec Dieu, car Christ est le sacrifice. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et donc, nous avons foi que Dieu a fait le nécessaire pour nous sauver. Mais la deuxième chose ici, c'est qu'il a parlé de se traverser de la mer pour cette mer et puis être sauvé à l'autre côté. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un écrivain du Nouveau Testament, en parlant de ce qui s'est passé, a dit que ces Israélites étaient baptisés en Moïse. Ils étaient baptisés en Moïse, traverser les eaux pour être baptisés en lui. Mais nous, nous sommes baptisés en Christ Jésus et nous appartenons à lui. Et je crois que une des choses qui nous aide avec notre foi, c'est de penser à ce jour où nous avons dit oui à Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes passés à travers les eaux pour appartenir avec lui. Donc nous pensons à la croix, nous pensons à notre baptême, que nous sommes appelés maintenant à vivre selon notre baptême. Et puis finalement, nous pensons à notre pays, à notre espérance, que Dieu prépare un autre pays pour nous. Il prépare un lieu avec lui. Et ça, c'est important parce que vous savez que dans les anciens chants gospel du noir, des esclaves autrefois, ils parlaient souvent de traverser le Jourdain. De traverser le Jourdain. Vous vous souvenez de ça? Et traverser le Jourdain veut dire quoi? Bah, ça veut dire passer à travers la mort. Pour arriver où? À une terre promise. Et c'est exactement ce qu'Israël a fait, traverser le Jourdain pour entrer à Jéricho, dans ce pays que Dieu leur a donné. Mais c'est seulement pour ceux qui persévèrent. C'est seulement pour ceux qui marchent par la foi. Donc la croix, le salut que Dieu nous donne. Le baptême, c'est le moment que nous mourons avec Jésus et nous marchons avec lui. Le Jourdain et le Canaan, c'est notre pays que Dieu a promis. Et ces trois choses, notre pardon, notre baptême et notre pays futur, ont leur importance quand nous marchons par la foi. Et ce sont des choses qui nous encouragent à rester sur le chemin. Et quand les doutes arrivent, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu est attentif? Est-ce que Dieu, tu me protégeras de ces différentes choses parce que je te suis? Quand ces choses arrivent, si c'est la persécution ou ce sont les difficultés ou des soucis de la vie, nous retenons ces choses dans notre cœur. Le sacrifice de Jésus, le baptême auquel il nous a appelés et le pays futur qu'il nous a promis.